dans ce discours d'indignation du Premier ministre Attal, jamais un mot sur les victimes assassinées par le Hamas. Sachez également que l'Indonésie va normaliser ses relations avec Israël en échange de l'établissement de relations diplomatiques. Jérusalem lèvera donc son opposition à l'adhésion du plus grand pays à majorité musulmane au monde à l'OCDE. EasyJet suspend ses vols en direction et en provenance d'Israël. Par ailleurs, Ryanair, le géant du low cost, revient en Israël et reprendra ses vols vers Israël le 2 juin prochain. Enfin, le président de l'État d'Israël, M. Herzog, a honoré les trois otages tués par erreur, malheureusement, par Tsahal. Alors, revenons à nos invités, chers auditeurs, émission d'exception aujourd'hui. Il y aura en effet, à mon avis, un avant et un après. Je ne doute pas de votre niveau intellectuel, chers auditeurs, mais je vous assure que vous vous sentirez plus intelligent après avoir écouté nos intervenants. En tout cas, c'est mon cas. Alors, de qui s'agit-il, Lady First? Marina Solvay, bonjour.
Bonjour,
et merci
Aviva
d'être ici, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, pour ceux qui pourraient l'ignorer, que vous êtes l'arrière-arrière-petite-fille d'Ernest Solvay, donc descendant direct. Ernest Solvay, grand industriel belge, actif dans différents domaines, dont la biologie et la chimie. Nous allons en parler, donc c'est le sujet. Aujourd'hui, en effet, qui ne connaît pas la faculté universitaire Solvay, Solvay Brussels School, Ernest Solvay était un grand mécène de la recherche scientifique de son époque. Il est né en avril 1938. Marina Solvay, vous êtes très investie dans différents projets et nous en parlerons dans quelques instants. À vos côtés, le professeur Marc Hainaut. Bonjour à vous aussi.
Bonjour.
Merci, professeur, d'être sur ce plateau de Radio Judaïka. Alors, je rappelle que vous êtes détenteur de plusieurs prix prestigieux, dont le fameux prix Franqui. Vous nous expliquerez ce que c'est d'ailleurs, hein, parce que beaucoup de gens l'ignorent. Moi, je dis que le prix Franqui récompense l'excellence dans plusieurs domaines. Vous tenterez de résumer votre pensée pour que nos auditeurs comprennent bien l'importance du sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec les conseils Solvay, etc. Je rappelle que vous êtes docteur en physique de l'ULB. Vous avez été Visiting Fellow à l'Université de Princeton aux États-Unis et à l'Université du Texas à Austin avant d'être engagé au FNRS en Belgique, puis nommé prof à l'ULB. Vous êtes directeur des instituts Solvay depuis 2004, élu professeur du Collège de France sur la chaire champ, corde et gravité en 2017. Monsieur Hainaut a également été directeur scientifique du journal JHOP, Journal of High Energy Physics, de 2006 à 2018. Les recherches de Marc Hainaut sont consacrées à l'étude des modèles théoriques qui décrivent les interactions physiques fondamentales avec un intérêt particulier pour leur symétrie, pour la gravitation. Alors, vous allez nous parler tout à l'heure, professeur Hainaut, de pourquoi vous êtes là et de ce qui vous passionne. Alors, Lady First, Marina Solvay. Donc, comme je l'ai dit, vous êtes une des descendantes directes d'Ernest Solvay. Alors, je vous poserai cette première question. Quel rôle jouez-vous aujourd'hui dans la transmission de l'œuvre d'Ernest Solvay, une œuvre qui est aujourd'hui immense et qui rayonne dans le monde entier, on peut le dire?
Alors, le rôle que je joue, c'est surtout un rôle de l'histoire que j'essaie de transmettre. Ernest Solvay, pour moi, était un scientifique pur, beaucoup plus qu'un entrepreneur, un capitaine d'industrie et même un mécène. Il l'est devenu parce qu'il a fait une immense fortune, mais son but premier, c'était la science. Il a toujours aimé la science.
C'était sa passion.
C'était sa passion. Et j'essaye de transmettre ce message parce qu'il a fait énormément de choses, de créer des institutions, entre autres, les conseils de physique, les conseils de chimie. Et cette année, nous avons créé, selon son souhait le plus cher, parce que c'était un de ses souhaits les plus chers, un conseil de biologie qui est le premier.
Ah oui, dont le professeur Hainaut va nous en dire quelques mots.
Exactement.
Dans quelques instants. Oui. Alors, Marina Solvay, quel est le rayonnement en Belgique et dans le monde des travaux d'Ernest Solvay? Il est connu dans le monde entier.
C'est-à-dire qu'il est connu dans le monde entier, peut-être pour le bicarbonate de soude qu'on pouvait acheter.
Ça, on connaît. Hein, dans notre cuisine, on a tout.
C'est-à-dire que Au début du XXe siècle, ils produisaient 90% de toute la soude dans le monde. Donc, oui. Il est connu. Moi, quand j'étais à l'école, on m'appelait Bicard.
C'est un beau surnom, pourquoi pas.
Et on disait qu'il dissolvait dissolvant.
Ah oui, oui, oui. Ce sont voilà. Des petits souvenirs qui vous reviennent.
Moi, c'est des petits souvenirs qui me reviennent. Mais voilà, donc je crois qu'il est très connu pour ça. Mais par contre, dans tout ce qui est grande institution scientifique, c'est-à-dire les grandes Ivy Leagues et les grandes écoles en Amérique, tout le monde connaît Solvay à travers les conseils Solvay.
Ah, c'est ça. Donc, ces conseils siègent dans le monde entier.
Non, les conseils siègent à Bruxelles,
oui.
Mais les gens qui viennent
oui, ça rayonne,
se réunir à Bruxelles viennent du monde entier.
Oui, donc,
et il y a des photos.
En fait, oui. Il y a des photos de ces fameux conseils de 1911, de 1927, dans plein de départements de physique, aux États-Unis et à l'étranger, ailleurs aussi. Oui.
Donc, ça émane des gens qui ont assisté aux conseils
ou
ici qui rentrent chez eux et qui en font quelque chose.
Qui en font quelque chose. Et le fait aussi que ça a joué un rôle historique dans le développement de la science moderne. Et donc, les départements de physique veulent illustrer, disons, ce développement de la science moderne au XXe siècle par les photos des grandes personnalités qui ont assisté au conseil.
Alors, Marina, est-ce que le nom de Solvay, est-ce parfois un nom lourd à porter ou au contraire une fierté constante, dirais-je, en tout cas, de mon point de vue, une responsabilité?
Oui, c'est une responsabilité, mais j'en suis très fière. J'en suis très fière. Je suis très fière d'avoir eu un ancêtre qui était aussi extraordinaire. Et j'essaye de transmettre ce que j'ai reçu de lui au plus de personnes possibles. En tout cas, mes enfants, mes petits-enfants.
Oui, j'allais poser la question. Vous êtes suivie dans votre famille?
Est-ce que... Mais oui, ils sont absolument drillés. J'insiste toujours, ils vont venir à la séance publique qui aura lieu dimanche et j'essaye de les intéresser à la physique, à la chimie, à la biologie. Je trouve ça très important.
Ah oui, donc ils mordent vraiment à l'hameçon.
Oui,
vous pouvez compter sur eux.
Oui.
Et alors, vous êtes investi aussi, les Solvay, dans le financement des programmes où,
Oui. Alors,
parce que bon, l'argent, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est partout.
Exactement, nous continuons à financer les conseils. Et d'ailleurs, cette année, le conseil de biologie a été financé par notre famille, mais aussi par UCB. Et UCB...
L'Union chimique belge.
Oui, finalement, c'est aussi la famille, puisque c'est les Janssen qui sont des descendants. Jeanne, la fille d'Ernest, avait épousé l'ancêtre des Janssen. Et donc, c'est aussi la famille quelque part. Mais c'est quand même
oui.
une institution qui nous finance.
Alors, professeur Marc Henault, je vais vous donner la parole. Tout d'abord, vous avez reçu le prix Franqui. Vous pouvez en dire quelques mots?
Oui, donc le prix Franqui, c'est un prix donné à un scientifique belge ou travaillant en Belgique et qui couronne des travaux réalisés avant 50 ans. Donc le prix ne peut pas être donné à des personnes de plus de 50 ans. Donc on veut que des gens relativement jeunes. Oui, voilà. Très jeunes pour maintenant. Donc c'est un prix qui est donné en sciences exactes tous les 3 ans et qui couronne une personne qui a été choisie par un jury international pour ses travaux.
Donc, c'était vous.
Voilà, en cette année-là, c'était moi,
et
oui.
J'ai vu qu'il y a des personnes très éminentes. J'ai un petit peu regardé qui avaient reçu le prix Franqui. Franchement, c'est...
Oui, c'est quelque chose qui m'a fait... qui m'a beaucoup honoré, qui m'a fait grand plaisir,
c'est,
évidemment.
C'est bien à mettre sur la carte de visite, je suppose. Oui, voilà. Ça peut ouvrir des portes. Alors, venons-en au sujet qui nous occupe. Donc, le conseil Solvay s'adresse bien sûr à des spécialistes.
Oui, hein, oui.
Et il y a un événement là, qui a démarré hier.
Donc, hier a commencé le premier conseil de biologie. Selon le même format imaginé par Ernest Solvay pour les conseils de physique en 1911 et le premier conseil de chimie en 1922. Et donc, comme Marina l'a dit, effectivement, Ernest Solvay était extrêmement intéressé par les sciences du vivant aussi. Donc, il avait une vision très globale de toute une grande démarche intellectuelle concernant la physique, la structure de la matière, mais les sciences du vivant aussi, et puis même la structure de la société, comment fonctionne la société. Et donc, il avait à son programme sans doute l'idée d'avoir aussi des conseils de biologie. Et nous avons réalisé cette année-ci, donc hier a commencé le premier conseil de biologie, où on a fait venir une trentaine de spécialistes du monde entier pour débattre d'un sujet absolument important en biologie, qui est la communication, la transmission d'informations et entre les cellules dans le monde du vivant.
Alors, je rappelle aux auditeurs qui s'y intéresseraient que cet événement est gratuit, ouvert à tous.
Alors ce conseil purement scientifique se termine dimanche par un événement grand public qui est ouvert à tous, gratuit, qui est donné en anglais, mais avec traduction simultanée pour les personnes qui seraient plus faibles en anglais.
Oui.
Et ce sont vraiment des exposés destinés au grand public de vulgarisation qui vont expliquer les grands défis de la biologie, du domaine de la biologie qui a été couvert par le Conseil. Donc un des exposés traitera de la vie sociale des cellules. Comment échangent-elles, parlent-elles entre elles? Comment savent-elles ce qu'elles doivent faire en fonction de ce que les autres leur disent, si je puis dire, exprimer ça comme ça? Et l'autre exposé sera consacré à la manière dont notre cerveau détermine ce qu'il doit faire et anticipe le futur.
Et puisque vous parlez de cerveau, je voudrais avoir votre avis sur, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle,
oui.
Ce qui engendre ou enthousiasme ou préoccupation.
Oui, alors
quel est
je pense
votre
que, avis comme toujours, ces outils sont à la fois, peuvent donner le meilleur et le pire, s'ils sont mal utilisés. Pour un scientifique, l'utilisation de l'intelligence artificielle peut permettre de faire de grands progrès dans le traitement des données. Et donc, je sais que les chimistes utilisent beaucoup l'intelligence artificielle pour explorer de nouvelles molécules. Les scientifiques aussi, les physiciens aussi, en physique des hautes énergies en particulier, en astronomie, en astrophysique, on utilise l'intelligence artificielle. Je pense que ça va être un outil extraordinaire. Mais je pense aussi que dans d'autres domaines, plus proches peut-être de la politique, etc., en raison des fake news qui risquent d'être utilisées dans les bases de données utilisées par l'intelligence artificielle, ça risque d'être plus compliqué.
Bon, l'avenir nous le dira.
L'avenir nous le dira, oui.
Oui.
Mais en tout cas, pour les scientifiques, c'est un outil extraordinaire.
Donc vous n'êtes pas préoccupé
de ce point de vue-là,
non. Mais écoutez, chers amis, l'entretien va tout doucement se terminer. Alors, je voudrais quand même redonner la parole à Marina Solvay pour une petite conclusion.
Alors, merci beaucoup de nous avoir reçus. Alors, je rappelle que l'événement public se passe à Flagey.
Dimanche.
Dimanche, à 15h.
Gratuit.
Oui, peut-être. C'est gratuit, mais pour la bonne gestion de l'événement, il faut s'inscrire sur le site des Instituts Solvay. Site des Instituts Solvay dont je ne connais plus l'adresse par cœur, mais si on fait Google Institut Solvay, on tombe dessus. Voilà. Il n'y a pas de difficulté à le trouver. Mais c'est mieux de s'inscrire parce qu'on veut gérer le public.
Et vous attendez quand même pas mal de monde.
La capacité du Studio 4 de Flagey, c'est 900 personnes.
Ah, quand même.
Alors on attend, je pense, de l'ordre de 500 personnes.
Ah, tout de même.
Oui.
Vous avez déjà des inscriptions?
Alors, les inscriptions, la semaine passée, mais il y a eu des articles dans la presse depuis, donc je pense qu'elles auront augmenté. On était déjà à 500 personnes, oui.
Ah oui.
Donc, c'est important de s'inscrire.
Oui.
Mais venez nombreux, parce que ça va être très intéressant.
Mais en tout cas, d'abord, je vous remercie infiniment d'être venu dans le studio de Radio Judaïka. Je vous souhaite un futur radieux pour tous vos projets. Et n'hésitez pas, vous serez toujours le bienvenu ici à l'antenne Radio Judaïque.
Merci beaucoup.
Un grand merci aussi de ma part.
11 novembre 1975. Hier, j'étais dans le métro et j'entends deux dames dire « T'as vu encore ces juifs avec leurs histoires à l'ONU ? » Quels emmerdeurs. C'est vrai, nous sommes des emmerdeurs. Ça fait des siècles qu'on emmerde le monde. C'est dans notre nature, que voulez-vous ? Abraham, avec ton Dieu unique, Moïse avec ses tables de la loi, Jésus avec son autre joue toujours prête à la deuxième baffe, puis Freud, Marx, Einstein, tous ont été des gêneurs, des révolutionnaires, des ennemis de l'ordre. Pourquoi ? Parce qu'aucun ordre, quel que fût le siècle, ne pouvait les satisfaire, puisqu'ils en étaient toujours exclus. Remettre en question, voir plus loin, changer le monde pour changer de destin, tel fut le destin de mes ancêtres. C'est pourquoi ils sont haïs par les défenseurs de tous les ordres établis. L'antisémite de droite reproche aux juifs d'avoir fait la révolution bolchévique. C'est vrai, il y en avait beaucoup, en 1917. L'antisémite de gauche reproche aux juifs d'être les propriétaires de Manhattan. C'est vrai, il y a beaucoup de capitalistes juifs. La raison est simple. La religion, la culture, l'idéal révolutionnaire d'un côté, les portefeuilles et les banques de l'autre sont les seules valeurs transportables, les seules patries possibles pour ceux qui n'ont pas de patrie. Et maintenant qu'il en existe une, l'antisémitisme renaît de ses cendres, pardon, de nos cendres, et s'appelle antisionisme. Il s'appliquait aux individus, il s'applique à une nation. Israël est un ghetto, Jérusalem c'est Varsovie. Les nazis qui nous assiègent parlent arabe, et si leur croissant se déguise parfois en faucille, c'est pour mieux piéger les gauches du monde entier. Moi qui suis un juif de gauche, je n'en ai rien à faire d'une certaine gauche qui veut libérer tous les hommes du monde aux dépens de certains d'entre eux, car je suis précisément de ceux-là. D'accord pour la lutte des classes, mais aussi pour le droit à la différence. Si la gauche veut me compter parmi les siens, elle ne peut pas faire l'économie de mon problème. Et mon problème est que depuis les déportations romaines du 1er siècle après Jésus-Christ, nous avons été partout honnis, bannis, traqués, dénoncés, écrasés, spoliés, brûlés et convertis de force. Pourquoi ? Parce que notre religion, c'est-à-dire notre culture, était dangereuse. Eh oui. Quelques exemples ? Le judaïsme a été le premier à créer le Shabbat, jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour de repos hebdomadaire obligatoire. Vous imaginez la joie des pharaons, toujours en retard d'une pyramide. Le judaïsme interdit l'esclavage. Vous imaginez la sympathie des Romains, les plus importants grossistes de main-d'œuvre gratuite de l'Antiquité. Il est dit dans la Bible, « La terre n'appartient pas à l'homme, mais à Dieu ». De cette phrase découle une loi, celle de la remise en question automatique de la propriété foncière tous les 49 ans. Vous voyez l'effet d'une loi pareille sur les papes du Moyen-Âge et les bâtisseurs d'empires de la Renaissance. Il ne fallait pas que les peuples sachent. On commença par interdire la Bible. Puis ce furent les médisances. Des murs de calomnie qui devinrent murs de pierre et qu'on appela ghetto. Ensuite ce fut l'Inquisition, les bûchers et plus tard les étoiles jaunes. Auschwitz n'est qu'un exemple industriel de génocide. Mais il y a eu des génocides artisanaux par milliers. J'en aurai pour 3 jours, rien qu'à nommer tous les pogroms d'Espagne, de Russie, de Pologne et d'Afrique du Nord. À force de fuir, de bouger, le juif est allé partout. On extrapole et voilà, il n'est de nulle part. Nous sommes parmi les peuples comme l'enfant à l'assistance publique. Je ne veux plus être adopté. Je ne veux plus que ma vie dépende de l'humeur de mes propriétaires. Je ne veux plus être un citoyen locataire. J'en ai assez de frapper aux portes de l'histoire et d'attendre qu'on me dise « entrez ». Je rentre et je gueule. Je suis chez moi sur terre. Et sur terre, j'ai ma terre. Elle m'a été promise, elle sera maintenue. Qu'est-ce que le sionisme ? Ça se réduit à une simple phrase. L'an prochain à Jérusalem. Non, ça n'est pas un slogan du club méditerranéen. C'est écrit dans la Bible, le livre le plus vendu et le plus mal lu du monde. Et cette prière est devenue un cri qui a plus de 2000 ans. Et le père de Christophe Colomb, de Kafka, de Proust, de Chagall, de Marx, d'Einstein et même de Monsieur Kissinger l'ont répété, cette phrase, ce cri, au moins une fois par an, le jour de Pâques. Alors, le sionisme c'est du racisme ? Faites-moi rire. Est-ce que douce France, cher pays de mon enfance, est un hymne raciste ? Le sionisme, c'est le nom d'un combat de libération. Dans le monde, chacun a ses juifs. Les Français ont les leurs. Ce sont les Bretons, les Occitans, les Corses, les travailleurs immigrés. Les Italiens ont les Siciliens, les Yankees ont leurs Noirs, les Espagnols leurs Basques. Nous, nous sommes les Juifs de tous. À ceux qui me disent « Et les Palestiniens ?» Je réponds « Je suis un Palestinien d'il y a 2000 ans. Je suis l'opprimé le plus vieux du monde. Je discuterai avec eux, mais je ne leur céderai pas ma place. » Il y a là-bas de la place pour 2 peuples et 2 nations. Les frontières sont à déterminer ensemble. Mais l'existence d'un pays ne peut en aucun cas exclure l'existence de l'autre. Et les options politiques d'un gouvernement n'ont jamais remis en cause l'existence d'une nation, quelle qu'elle soit. Alors pourquoi Israël ? Quand Israël sera hors de danger, je choisirai parmi les juifs et mes voisins arabes ceux qui me sont fiers par les idées. Aujourd'hui, je me dois d'être solidaire avec tous les miens, même ceux que je déteste, au nom de cet ennemi insurmontable, le racisme. Descartes avait tort. Je pense donc je suis, ça ne veut rien dire. Nous, ça fait 5000 ans qu'on pense, et nous n'existons toujours pas. Je me défends, donc je suis.
extraordinaire plaidoyer pour ma terre avec la voix d'Herbert Pagani qui nous a quittés bien trop tôt. Parlons cinéma à présent. Adrien Brody est un acteur américain né le 14 avril 1973 à New York. Il est connu pour ses performances dans des films tels que Le Pianiste, King Kong ou encore The Grand Budapest Hotel. Adrien Brody a commencé sa carrière d'acteur à l'âge de 13 ans en apparaissant dans un spectacle télévisé. Sa première apparition cinématographique remonte à 1989 dans le film New York Stories. Cependant, c'est en 2002 qu'il a obtenu sa première reconnaissance internationale pour son rôle dans Le Pianiste de Roman Polanski, dans lequel il jouait le rôle du pianiste juif Vladislav Spielmann. Sa performance a été acclamée par la critique et lui a donc valu le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes. Depuis lors, Adrien Brody a continué à jouer dans des films à succès tels que King Kong de Peter Jackson, The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson et Predator. Il a également travaillé à la télévision, apparaissant dans des séries telles que Peaky Blinders et Succession. En dehors de sa carrière d'acteur, Adrien Brody est également un artiste accompli, travaillant dans des médias tels que la peinture, la photographie et la sculpture. Il a exposé son travail dans des galeries à travers le monde entier, y compris à la Royal Academy of Arts de Londres. Bien que son père soit catholique et sa mère juive, Adrien Brody s'identifie comme juif et a été élevé dans la religion juive. Il est donc fier de son héritage juif et a déclaré que cela a eu un impact significatif sur sa vie et son travail. Il a d'ailleurs étudié l'hébreu afin de mieux comprendre et se connecter à sa culture et à sa religion. Il a également participé à plusieurs projets liés à la culture juive, notamment en interprétant le rôle fabuleux du pianiste juif Vladislav Spielmann dans Le Pianiste. Adrien Brody est également impliqué dans plusieurs organisations juives. Il a notamment soutenu la fondation Anne Frank, qui travaille à perpétuer la mémoire d'Anne Frank et de la Shoah, ainsi que l'American Jewish World Service, une organisation qui se consacre à la lutte contre la pauvreté et à la défense des droits humains, et cela dans le monde entier. En dehors de ses engagements liés à sa religion, Adrien Brody est également un fervent défenseur de l'environnement. Il a d'ailleurs été nommé ambassadeur de l'UNESCO pour le développement durable en 2019 et travaille activement pour sensibiliser le public aux enjeux environnementaux et climatiques. En somme, Adrien Brody est un acteur et artiste talentueux, fier de son héritage juif et impliqué dans des projets liés à sa culture et à sa religion. Adrien Brody est un partisan de la culture juive et, comme je vous l'ai dit, il a même étudié l'hébreu.
בקרוב תזרח השמש, נדע ימים יפים מאלה, הלב נלחם בדאגות. כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה. הלוואי נדע בשורות טובות כי עם הנצח לעולם לא מפחד אפילו כשקשה לראות כולם ביחד אף אחד פה לא בודד שישרפו המלחמות עם ישראל חי אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים עם ישראל חי בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות הקדוש ברוך הוא שומר עלינו אז מי יכול עלינו כי אין לנו עוד מדינה תעשה שלום בינינו שמור על ילדינו כי לא נחלתנו לא תיפול כעת רוחנו מסביב ברזל של חרבות ויונה תפרוס כנפיים התקווה בת שנות אלפיים עוד נצא לשיר ברחובות
כי עם הנצח לעולם לא מפחד אפילו כשקשה לראות כולם ביחד אף אחד פה לא בודד שישרפו המלחמות עם ישראל חי אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים עם ישראל חי
Israël Chai, c'était Eyal Golan. Le président de l'État d'Israël, M. Herzog, Yitzhak Herzog, honore les trois otages tués par erreur par Tzahal. Lundi, ce dernier et son épouse Michal ont donc reçu les parents et les proches de Yotam Chaim, Alon, Shamriz et Samar Talalka, les trois otages tués par erreur par Tzahal dans la bande de Gaza, pour une cérémonie rendant hommage à leur courage. La tragédie qui a touché ces familles a également mis en lumière la bravoure de ces trois jeunes hommes qui ont réussi à faire fuir les terroristes qui les détenaient et à rejoindre les forces de Tzahal. Le président Herzog a déclaré « Trois courageux Israéliens dont les destins se sont liés lorsqu'ils sont tombés sous le feu ami alors qu'ils tentaient de se sauver des mains meurtrières de leurs ravisseurs. Avec détermination, courage et engagement mutuel exceptionnel, ils se sont donc lancés dans une mission visant à se sauver de la vallée de la mort contre toute attente. Un voyage qui s'est malheureusement tragiquement terminé par leur mort sur le champ de bataille. L'amour sanctifié dans le sang. Cette histoire incroyable et sa fin horrible nous déchirent le cœur. La douleur, la frustration, le chagrin total pour ce qui aurait pu être, pour la tournure amère que cela a pris, pour les espoirs brisés, ont consumé l'âme et le cœur de toute une nation. En ce vendredi soir difficile. Les mots « Sauvez-nous » écrits sur des emballages alimentaires avec des restes de force et les cris des otages résonnent encore en nous comme les cris de toute une nation endurant un si terrible désastre. L'histoire de ces trois héros est avant tout une histoire de courage suprême. C'est avant tout une histoire fascinante sur l'esprit humain. La douleur et l'agonie qu'ils ont vécues, Samar, Alon et Yotam, ont éveillé en eux un courage unique, un courage réservé à quelques élus. Un courage que j'ai ressenti comme un désir et un devoir de reconnaître, d'honorer, de reconnaître au nom de la nation entière. Bien-aimée famille Shamriz, Talalka et Chaim, vous avez enduré une agonie si profonde, endurez de longues nuits de peur et d'inquiétude pour la sécurité de vos fils, des journées haletantes remplies de prières et d'espoir. Et, après eux, des jours brisés, une crise, un choc énorme et un chagrin terrible lorsque la nouvelle de leur mort a éclaté, lorsque les espoirs de les revoir un jour ont été anéantis. Il faut une immense force d'esprit pour supporter tout cela. Avoir votre courageuse réaction, il est clair pour nous tous d'où Yotam, Alon et Samar ont tiré leur courage inimaginable et dont ils ont tiré leur force. Je suis donc rempli d'espoir et de prière pour que malgré cette douleur, l'esprit de bravoure et de résilience dont ont fait preuve Alon, Samar et Yotam servira également à vous assurer que des jours de lumière et de joie viendront. Nous puisons tous l'espoir dans le courage et l'esprit de vos proches et je prie, souhaite, crois et je suis même certain que vous mériterez de vivre des jours de joie et de bonheur ici sur notre terre bien-aimée. Chère famille, sur le certificat d'honneur que je vous décerne aujourd'hui en tant que président de l'État d'Israël, il est écrit « L'État d'Israël exprime par la présente sa profonde gratitude pour le courage de Yotam, Samar et Alon. Chacun, avec un grand courage et un engagement mutuel exceptionnel, a agi pour se sauver lui-même et ses frères du danger de la captivité. Ils sont tombés avec vaillance au cœur du champ de bataille. » Que la mémoire de Samar, Alon et Yotam soit gravée dans le cœur d'Israël de génération en génération et liée pour toujours par le lien de la vie. Et à la famille Talalka, je dis en arabe qu'Allah ait pitié de Samar et lui accorde les cieux les plus hauts et qu'il vous accorde réconfort et consolation. Le président a également eu des mots pour l'ensemble des familles d'otages et a appelé bien sûr à leur libération immédiate.
הביתה מן הקור, הביתה אל האור, הלב ירעב. כשתבואי מבעד לדמעות, תבחין באותיות, לחופש נולד. ואם תהיה תתעטף נשיר לך בשקט נשיר לך ברוך ונחכה ונלטף עד שתצטרף ואז נשיר ברון נשיר ברון נשיר ברון
C'était bien sûr le chanteur Boaz Sharabi avec cette très belle chanson en mémoire de l'otage assassiné Ron Arad. L'OTAN, de son côté, a été impressionné par le traitement de Tsahal des blessés sur le champ de bataille. 6 mois après le début de la guerre à Gaza, les données montrent que le nombre de vies de soldats blessés sauvés est particulièrement élevé. Les méthodes employées par Tsahal pour traiter et évacuer les blessés sur le champ de bataille sont tout à fait uniques et ont suscité l'admiration des responsables de l'OTAN. Contrairement à ce qui se faisait par le passé, Tsahal a supprimé pendant cette guerre les hôpitaux de campagne où étaient transportés les blessés dans un premier temps avant d'être évacués dans les hôpitaux du pays. Parallèlement, l'armée israélienne a adjoint plus de 670 médecins et paramédicaux aux différents bataillons au plus fort de l'offensive terrestre. Il faut en effet entre 0 et 4 minutes à un médecin ou à un secouriste pour arriver sur les lieux et commencer à s'occuper d'un blessé sur le champ de bataille. Notons aussi que parmi les 300 soldats tombés au combat, 40 sont des médecins et des soignants militaires qui ont été tués alors qu'ils tentaient de sauver des blessés. La nouvelle approche de Tsahal consiste en fait à évacuer le blessé le plus rapidement vers un hôpital en Israël et de procéder au minimum de soins sur place. Les blessés sont transportés dans des blindés qui ont été transformés en ambulances blindées avec à leur bord des chirurgiens et des médecins en soins intensifs ou dans des hélicoptères qui possèdent une solide expérience de sauvetage rapide sur le terrain gazaoui. Ainsi, en moyenne, un blessé de guerre est pris en charge à l'hôpital 1h06 après sa blessure, alors que pendant la Seconde Guerre du Liban, il fallait en moyenne 3 heures et pendant l'opération Tzouk Etan, 2h10, alors même que les combats avaient lieu près de la frontière et non au cœur de la bande de Gaza, comme c'est le cas aujourd'hui. On estime que plus de 200 vies de soldats blessés ont pu être sauvées grâce à cette méthode de prise en charge ultra rapide. L'une des données qui permet de définir l'efficacité du traitement des blessés de guerre est le rapport entre le nombre de blessés et le nombre de morts. La moyenne dans n'importe quelle guerre dans le monde depuis la deuxième moitié du XXe siècle est de 15%. 15% des blessés de guerre succombent à leurs blessures. Depuis le début de la guerre glaive de fer, la moyenne israélienne s'élève à 7,1% et même, on pourrait dire, 6,3% pendant le mois qui vient de s'écouler. Selon les statistiques mondiales, si l'on prend en compte le nombre de blessés pendant cette guerre, ce ne sont pas 300 soldats qui auraient dû mourir, mais 800, ce qui permet de mesurer le succès hors du commun des médecins et soignants de l'armée israélienne. Les principales raisons de cette réussite sont liées aux soins immédiats reçus par le blessé, ajouté au fait que pour la première fois au monde, nous transfusons les soldats sur le terrain, a précisé Tsahal.
La tête est un chemin, est un lèvre. La tête כשאתה אוהב. ואיך מוצאים את ההבדל שבין לקחת ולקבל. או תלמד לתת לתת, לגלות סודות בסתר, להתיר את צווח הקשר. כשהלב בך נצבט, מכל חיוך, מכל מבט, אתה נזהר, אתה יודע, וחוט ממך איש לא שומע. פוסע בין הדקויות וממלא שעות פנויות. לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב. או תלמד לתת לתת.
אתה לומד עם השנים לבנות ביחד בניינים לחיות עם כל השינויים לרקום איתה סיפור חיים ולעבור ימים קשים במצוקות בריגושים תמיד לדעת לוותר ואת הטעם לשמר לתת את הנשמה ואת הלב לתת כשאתה אוהב עוד תלמד לתת לתת ואת הלב לתת כשאתה אוהב עוד תלמד לתת לתת לראות בתוך הנפילה שיש מקום למחילה תמיד אפשר שוב חדש כמו הרגיל לתת את הנשמה ואת הלב לתת כשאתה אוהב עוד תלמד לתת
tête avec le chanteur Boaz Charabi. Direction la France, jamais un mot sur les victimes assassinées par le Hamas. Discours d'indignation du Premier ministre français. Ce dernier a défendu Israël et sa guerre à Gaza lors d'un débat au Parlement de son pays mercredi. Gabriel Attal, à qui un représentant du parti d'extrême gauche, la France insoumise au Parlement français, a demandé s'il serait prêt à s'engager à arrêter toutes les exportations d'armes françaises vers Israël. M. Attal a répondu « La situation à Gaza fait suite à une situation barbare et attaque terroriste totalement ignoble menée par le Hamas sur le sol israélien. Je tiens tout de même à vous rappeler, et je regrette de devoir le faire à chaque fois en réponse aux questions du parti d'extrême gauche, que la situation dramatique dans laquelle nous nous trouvons et que nous vivons à Gaza fait suite à une attaque terroriste totalement ignoble et barbare menée par le Hamas sur le sol israélien », a donc déclaré le Premier ministre français. Et quand je vous écoute, je ne peux que penser que l'idée de combattre à Gaza est venue soudainement un matin en Israël. Vous ne dites jamais un mot des victimes de l'attaque menée par le Hamas. Vous ne parlez jamais de nos personnes enlevées qui sont encore détenues aujourd'hui à Gaza. Il y a 3 Français enlevés, a poursuivi le Premier ministre français sous un tonnerre d'applaudissements. Je regrette de devoir évoquer le problème. C'est à chaque fois que le parti d'extrême gauche parle de ce sujet. Dans sa réponse, M. Attal a mentionné l'exportation marginale d'armes que notre pays fournissait à Israël et a affirmé qu'il assurait la défense du tout. Je suis désolée que, semaine après semaine, mois après mois, pendant que le ministre de la Défense de la France parlait méthodiquement et répondait à vos questions, vous continuez à véhiculer de fausses informations. Nos exportations vers Israël sont très limitées. En 2022, elle s'élevait à 0,2%, soit 15 millions d'euros. Le ministre de la Défense a également déclaré que nos exportations vers Israël sont très limitées. Les exportations concernent en fait des composants qui servent au système de défense israélien Iron Dome pour protéger ses terres. C'est la réalité. Sachez que la France a été le premier pays à appeler à la fin des violences à Gaza par la voix du président. Il poursuivit. Il a également été critiqué à l'époque pour cela. La France est le pays d'Europe qui a pris le plus d'initiatives aux Nations Unies et dans le dialogue avec Israël et tous les pays de la région. Et cela signifie qu'on ne peut pas voir la réalité à partir de votre idéologie.
Lom wir singen Kinderlach, Zemerl zusammen. Ein Wiegendl, ein Freiliches, mit Wörterlach zu skrammen. Die Mame kocht ein Lokschnusup mit Kasche in mit Knädlach. Kinder jontef Pirem, weil wir spielen sich in Dreidlach. Chiribim, Chiribom, Chiribim, Bom, 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 Bom. Chiribim, Chiribom, Chiribim, Bom, 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 Bom. Chiri biri 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 bim bom bom. Chiri biri 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 bim chiri bim bom 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 bom. Schön wie die Levone, lichtig wie die Sterne, von Himmel am Atone, bist du mir zugeschickt. Mein Glück hab ich gefunden, wenn ich hab dir gewinnen. Du scheiß wie tausend Sinne, hast du mein Herz verglickt. Deine Zähnderlach weiß wie Perlach, mit deine schönen Augen, deine Händerlach, deine Herrlach, hast mich zugezeugen. Schein wie die Levone, lichtig wie die Stern, von Himmel am Atone, hast du mir sie geschickt. Mädel, Mädel, will bei dir fragen, wo's kann wachsen, wachsen Regen, wo's kann brennen und nicht aufhören, wo's kann wecken, weinen und tränen. Tumbalalai, tumbalalai, tumbalalaika, tumbalalai, tumbalalai, tumbalalaika. Spiel balalaika, spiel balalaika, spiel balalaika, freilich soll sein. Bei mir bist du schön, bei mir hast du heim, bei mir bist du die schönste auf der Welt. Bei mir bist du gut, bei mir hast du Hitz, bei mir bist du noch teurer von Geld. Viel schöne Mädelach, ihr wollt schön nehmen mich, noch finden sie alle euch geklebt dich. Bei mir bist du schön, bei mir hast du heim, bei mir bist du die schönste auf der Welt. Es ist zu mir gekommen, a Cousine, schön wie Gold, sie gewinnt die Grine. Bäckerlach wie Reute Pomeranzen, Fieserlach, was beten sich zum Tanzen. Bäckerlach wie Reute Pomeranzen, Fieserlach, was beten sich zum Tanzen. Heint das sich begegnen, mein Cousine, und ich frag sie, wo machst du Grine? Entert sie mir mit der Creme Mine, als am Aslof Kolumbus es Medine. Entert sie mir mit der Creme Mine, als am Aslof Kolumbus es Medine. Jo, jo, Jossel, 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 du schreies geht hier, also ist von dir. O, jo, jo, Jossel, 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 sie holt jede Nacht nur von dir. O, jo, jo, Jossel, 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 dein Malke sitzt nur und wart auf dir. Sie holt jede Nacht und von dir, nur sie tracht, sie bängt und krapiert nur von dir. Sie holen jede Nacht und von dir, nur sie tracht, sie bängt und krapiert, nur von dir. Amule sind der Rebinu gegangen unterwegs, mit Amule tun sie fjuchen und gießen nach Regen.
schreit der Rebbe zu dich, Mare, herauf gießen Wasser. Zinnen alle, sie dem Trinken arroz, der Rebbe ist arroz an Nase. Chiribim, chiribom, chiribim, bom, 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 chiribim, chiribom, chiribim, bom, 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 bom. Chiri biri 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 bim bom bom. Chiri biri 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 bim chiri bim bom 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 bom.
C'était le chanteur Yaakov Shapiro. Sachez qu'Israël est sur le point de normaliser ses relations avec l'Indonésie, le plus grand pays à majorité musulmane au monde. Cette décision intervient après 3 mois de pourparlers secrets entre Jérusalem et Jakarta. En échange de l'établissement de relations diplomatiques avec l'État juif, Jérusalem lèverait son opposition à ce que l'Indonésie devienne le 39e membre de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. L'Indonésie pourrait normaliser ses liens avec Israël dans le cadre d'un accord visant à faciliter l'entrée de la nation musulmane la plus peuplée au monde dans un forum mondial pour les pays développés. Un responsable qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat a confirmé un article du journal israélien Le Yedioth Ahronot détaillant des mois de discussions confidentielles entre Jérusalem, Jakarta et le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, M. Matthias Korman. La normalisation marquerait une volte-face étonnante de l'Indonésie à un moment où le sentiment anti-israélien dans le monde musulman est plus fort qu'il ne l'a jamais été depuis des années en raison de la guerre en cours entre le groupe terroriste palestinien du Hamas dans la bande de Gaza. Mais en établissant des liens, Israël mettrait fin à son opposition à l'adhésion de l'Indonésie à l'OCDE. L'OCDE a entamé en février dernier le processus d'adhésion de Jakarta à son forum qui compte 38 pays, mais Israël se serait opposé à cette adhésion en raison de l'absence de relations diplomatiques. Il faut savoir que les pays doivent recevoir un soutien unanime pour rejoindre le bloc qui se consacre à la promotion de la croissance économique par le biais de politiques fiscales néolibérales. M. Matthias Korman a d'abord obtenu de l'Indonésie la promesse de modifier sa position critique à l'égard d'Israël, mais le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, n'a pas voulu lever l'opposition de Jérusalem, affirmant qu'une normalisation serait nécessaire. Après plusieurs semaines de négociations, M. Korman a envoyé une lettre à M. Katz fin mars, dans laquelle il déclarait avoir négocié un accord selon lequel l'Indonésie ne serait pas autorisée à rejoindre le bloc tant qu'elle n'aurait pas normalisé ses relations. La formulation de la lettre a été approuvée par l'Indonésie. Mardi, Israël a donc autorisé l'Indonésie à participer, cela pour la première fois, à une mission d'aide aérienne au-dessus de Gaza, ce qui pourrait être le signe d'une intensification des relations entre les deux pays. Sous le président indonésien sortant, M. Joko Widodo, l'Indonésie a toléré des contacts discrets et de faible niveau avec Israël, principalement dans le domaine du commerce, mais a largement évité de nouer des liens officiels avec l'État juif. Le secrétaire général de l'OCDE, M. Korman, a donc envoyé une lettre au ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, il y a environ 2 semaines, dont Jakarta a approuvé le libellé. « Je suis heureux d'annoncer que le Conseil a officiellement accepté la condamnation rapide, claire et explicite selon laquelle l'Indonésie maintiendrait des relations diplomatiques avec tous les membres de l'organisation avant toute décision de l'accepter au sein de l'OCDE. De plus, toute décision future d'accepter l'Indonésie comme membre de l'organisation nécessitera l'accord unanime de tous les membres, y compris de l'État d'Israël. Je suis convaincu que cela vous apporte une sécurité sur ce point important, poursuit la lettre. Dans une lettre de réponse que M. Katz a envoyée mercredi soir, ce dernier a écrit « Je partage votre attente selon laquelle ce processus sera un changement pour l'Indonésie, tout comme j'attends un changement positif dans sa politique envers Israël, et en particulier un renoncement à la politique discriminatoire envers Israël en faveur de l'établissement de relations diplomatiques complètes entre les parties. » L'Indonésie s'est prononcée contre la guerre menée par Israël contre le Hamas à Gaza et a soutenu le procès de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice accusant Israël de génocide. Cependant, mardi, un avion indonésien a participé à un largage d'aide humanitaire sur Gaza, marquant la première fois qu'un avion indonésien survole l'espace aérien israélien. L'Indonésie était l'un des pays à majorité musulmane que Jérusalem s'efforçait d'ajouter aux accords d'Abraham dans les mois précédant l'invasion menée par le Hamas le 7 octobre dernier. Avec une population d'environ 280 millions d'habitants, ce pays d'Asie du Sud-Est est l'État musulman le plus peuplé au monde. Bien que Jakarta n'ait pas de relations diplomatiques officielles avec Jérusalem, il existe des liens non officiels dans les domaines du commerce, de la technologie ou encore du tourisme. Bublitschki avec à la clarinette Giora Feinman. C'est en compagnie de cette chanson que se termine l'émission Découverte. J'espère qu'elle vous aura intéressé et je vous rappelle qu'elle est rediffusée le dimanche de 18 à 19h. Il ne me reste plus bien sûr qu'à vous souhaiter une très bonne semaine. Shabbat Shalom, Chag Pesach Sameach. Quant à moi, je vous retrouverai, si vous le voulez bien, vendredi prochain, même heure, même chaîne. Découverte. Aviva Belef en votre compagnie, avec rien que de bonnes nouvelles en provenant d'Israël et du monde juif, mais pas seulement de bonnes nouvelles, également de la bonne musique et des invités.
נכנס לחיי אולי זה גורל עיוור מיום שהגעת חיכיתי לך עד שנכנס לחיי עכשיו תיכנסי יותר לוחש לחתן אצבע
Retrouvez-nous sur radiojudaica.be.